Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Dans moins de 5 minutes, le magazine Le Dialogue des Religions avec Idrissa Seydou Dia. Ce sera une rediffusion, mais tout d'abord un bulletin d'information. La Cour pénale internationale a donné une semaine au procureur pour trouver des preuves ou abandonner les poursuites contre le président kényan Uhuru Kenyatta. Le procès a été reporté à plusieurs reprises et le tribunal basé à La Haye a publié un communiqué ce mercredi indiquant que tarder davantage serait contraire aux intérêts de la justice. M. Kenyatta a fait face à des accusations de crimes contre l'humanité pour avoir organisé les violences post-électorales à la fin de 2007 et au début de 2008. M. Kenyatta a affirmé être innocent. La défense soutient que le dossier de l'accusation contre M. Kenyatta est vide, mais les procureurs notent que le gouvernement kényan a entravé ses efforts pour recueillir des preuves. Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'armée congolaise aurait repris 4 villages aux milices Raia Mutomboki. Les précisions de Nicolas Pinot.
Oui, selon l'administrateur du territoire de Shabunda, les FRDC ont réussi à déloger les miliciens de 4 villages qu'ils occupaient depuis plusieurs mois dans le sud Kivu. Interrogé par l'agence France Presse, Daniel Eloko Nsala affirme que l'armée congolaise a notamment repris Nyalubemba. Les villages libérés, eux, sont situés dans le territoire de Shabunda, à environ 65 km au sud-est de Bukavu, la capitale provinciale du sud Kivu. Les Raia Mutomboki, citoyens en colère en Swahili, sont apparus en 2005 comme milices d'autodéfense dans le territoire de Shabunda contre les rebelles Hutu-Rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR. Fin 2013, un rapport du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité notait qu'avec l'amenuisement de la menace des FDLR, de nombreuses factions des Raia Mutomboki se retournent contre les populations locales, se battent entre elles ou se muent en gangs purement criminels. Selon une récente étude de l'International Peace Information Service, des Raia Mutomboki, tout comme des militaires des FRDC, contrôlent toujours plusieurs mines d'or de Shabunda.
Et c'est dans ce contexte que l'Union européenne annonce le maintien de son aide à la réforme de la police en RDC. Coopération réaffirmée en dépit des graves bavures ayant terni l'action des forces de l'ordre à Kinshasa. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC souligne que l'objectif est justement la mise en place d'une police républicaine, professionnelle et respectueuse des droits de l'homme. Rappelons qu'un rapport de l'ONU publié en octobre accuse des policiers d'avoir tué au moins 41 personnes lors de l'opération Likofi. En Égypte, Human Rights Watch qualifie d'injuste la condamnation à mort de 188 partisans de Mohamed Morsi, l'ancien président islamiste destitué. L'Organisation de défense des droits humains ajoutant que les procès de masse récurrents en Égypte remettaient en cause l'indépendance de la justice. Personne ne devrait être envoyé à la potence après des procès si ouvertement injustes, estime l'ONG américaine.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le secrétaire d'État américain John Kerry estime qu'il faudra des années pour venir à bout des combattants de l'État islamique. Toutefois, il a assuré que les frappes aériennes de la coalition ont empêché les insurgés de lancer de nouvelles attaques. Pour John Kerry, les islamistes sont avertis. Les frappes aériennes sous commandement américain vont continuer si nécessaire, tandis que la formation et l'assistance aux forces de sécurité irakiennes vont gagner en ampleur. Le chef de la diplomatie américaine s'exprimait aujourd'hui à Bruxelles à l'ouverture de la conférence des ministres des affaires étrangères de 60 pays partenaires de la coalition. Un jeune palestinien de 16 ans a blessé à coups de couteau aujourd'hui deux Israéliens dans une colonie de Cisjordanie avant d'être lui-même blessé par balle, selon la police. Les autorités parlent d'une apparente attaque terroriste, selon l'AFP. Deux autres Palestiniens ont été arrêtés et font l'objet d'une enquête, selon l'AFP. Assaraf, le porte-parole de la police israélienne en Cisjordanie, occupée. Des Palestiniens ont mené ces dernières semaines des attaques au couteau contre des colons, des soldats et des civils israéliens en Cisjordanie et à Jérusalem. Des élections anticipées vont se tenir en Israël le 17 mars 2015. La Knesset a adopté cette date aujourd'hui, un jour après l'annonce par le Premier ministre Benjamin Netanyahou qu'il dissoudrait le Parlement. M. Netanyahou a pris la décision après le limogeage de deux membres influents de son cabinet. Selon les sondages, le Likoud, le parti du Premier ministre, a toutes les chances de remporter le scrutin. Et l'Organisation mondiale de la santé pointe du doigt dans la lutte contre Ebola. Peter Piot, l'un des microbiologistes belges qui a découvert le virus, estime que l'OMS a tergiversé avant de reconnaître la gravité de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Place maintenant au dialogue des religions.
Foi et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Nous vous proposons maintenant un programme en rediffusion.
Bonsoir à tous et à toutes au micro Idrissa Seydoudia. Dans le dialogue des religions de ce mercredi 26 novembre 2014, nous allons revenir sur la lutte contre Ebola et l'inhumation non sécurisée des victimes. Vous entendrez l'essentiel de ce que nous avait dit la dernière fois de nos invités, le révérend pasteur Soriba Joseph Paulo Camara, l'imam El Hadj Tierno Adi Oumar Thiam, président de l'Alliance des leaders musulmans et chrétiens pour la lutte contre le sida au Mali et président du Conseil fédéral national des adeptes de la confrérie Tidiane au Mali, et le docteur Abdoulaye Néné Koulibaly, membre de la Commission nationale de la lutte contre le virus Ebola au Mali. Il s'agira de savoir comment concilier dans ce combat les traditions religieuses sur le lavage et l'inhumation des corps face à la dure réalité scientifique de l'Ebola. Nous entendrons également vos commentaires sur la question. Pour un bref rappel, la question s'est posée quand un imam guinéen décédé le 25 octobre à la clinique Pasteur de Bamako a été transporté dans une mosquée locale. Après lavage, le corps a été transporté en Guinée où un enterrement non sécurisé a eu lieu. Nous avons demandé à nos invités ce que disaient leurs religions respectives sur le rituel des enterrements et la science. D'abord, le pasteur Soriba Camara.
Bien, dans des situations comme ça, la Bible encourage le croyant à se soumettre aux autorités du pays, à les respecter. Et par conséquent, les lignes directives données par le personnel de la santé à l'Église, on encourage les croyants, on les enseigne, on les sensibilise, dans le sens du respect de ce que ces gens nous disent, parce qu'ils sont les professionnels en la matière.
De son côté, l'imam Tierno Adi Oumar Thiam du Mali trouve qu'il n'y a pas de dichotomie entre religion et science, bien au contraire.
Moi, personnellement, bon, Ebola, le choléra, autres endémies, je sais que l'islam a déjà prévu beaucoup de choses. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a conseillé, quand s'il y a eu des cas comme Ebola, si ça existe dans un village ou une ville, de l'éviter. Ceux qui sont dans la ville ne doivent pas quitter et ceux qui ne sont pas dans la ville, de ne pas rentrer. Donc déjà, ça, c'est une prévention. Mais maintenant, les corps, les morts ne sont pas morts, comme on dit. Le rituel dépend ça diffère d'un pays à un autre. Est-ce que vous voyez? L'essentiel, si les médecins, les scientifiques, les spécialistes ont déconseillé de toucher au corps, un bon musulman doit appliquer ces directives scientifiques, ces données scientifiques. Laisser le corps, faire confiance aux spécialistes pour qu'ils s'occupent de l'enterrement du corps. Parce que ça, c'est pour protéger la société, c'est toujours pour protéger l'humanité et pour la continuité de l'humanité. Voilà.
Merci beaucoup.
Et ce n'est pas la première fois dans l'islam qu'on voit des pandémies comme ça. Bilal, qui est le moins du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est mort en Syrie, mais passé par le choléra. Et l'histoire est connue. Les musulmans doivent s'adapter au changement et à la science. La science n'est pas contre la religion et la religion n'est pas contre toutes les sciences.
L'imam Tierno Adi Oumar Thiam du Mali, avant l'imam, vous aviez entendu le pasteur Soriba Camara. Maintenant, le docteur Abdoulaye Néné Koulibaly, membre de la Commission nationale de la lutte contre le virus Ebola au Mali, souligne la nécessaire collaboration entre les chefs religieux et traditionnels et le corps médical.
Avant d'être médecin, nous sommes quand même issus d'une famille, d'une collectivité. Donc, au Mali, on dit, lorsqu'on voit un oiseau sur le cadavre d'un humain, on dit, il faut plutôt quitter sur le cadavre de mon parent. Donc, en tant que médecin, nous ne pouvons pas nous soustraire du comportement de notre société. Moi, je ne suis pas un théologien, je ne suis qu'un médecin. mais je pense que nous travaillons en bonne intelligence avec le Haut Conseil islamique, avec les leaders religieux et communautaires, pour que vraiment, à chaque fois qu'il y a un décès suspect, que ce décès puisse être investigué et qu'on mette la famille à l'écart, pour que vraiment on puisse ne pas contaminer le reste de la famille. Cela dit, tout le reste du dispositif est fait, la famille est informée régulièrement et la famille peut suivre à distance tout ce que nous faisons. Parce que ça, c'est un virus très fragile, mais un virus très, très dangereux. Tout ce que nous faisons, c'est vraiment pour la protection de l'environnement familial.
Et c'était le docteur Abdoulaye Néné Koulibaly du Mali.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Washington, la voix de l'Amérique, le dialogue des religions. Aujourd'hui, nous revenons sur la lutte contre Ebola et l'inhumation non sécurisée des victimes. Vous avez entendu certains de nos invités de la dernière fois. Nous y reviendrons tout à l'heure. En attendant, quelques-unes de vos réactions.
Je m'appelle Dikibé Tangouveïl. Je suis à Ngamena. Bon, pour Ebola, je dois dire que bon, les chrétiens et les musulmans, nous tous, nous devrions prier pour éradiquer Ebola. Et donc maintenant, je suis de cœur vraiment avec les victimes. Faire la prière, vraiment, je les conforte, quoi. Nous devons nous écarter vraiment des gens qui ont Ebola. De toute façon, on ne pourra pas multiplier la contamination et que les malades puissent vraiment garder leur statut.
Voilà, nous retrouvons le docteur Abdoulaye Néné Koulibaly qui parle ici des mesures de sensibilisation des populations.
Parfaitement. Je pense que non seulement c'est à éviter, mais il faudra expliquer aux communautés, il faudra expliquer aux populations. Pour revenir au cas de l'inhumation sécurisée, vraiment les cas d'inhumation auxquels nous avons participé, c'est avec dignité et avec le respect des principes religieux. C'est en ce sens que la famille est mise au courant, mais la famille ne participe pas à la manipulation. Parce que là, il faut porter des combinaisons spécifiques et pour traiter le corps avec dignité, mais avec de l'eau de Javel, vraiment à forte dose. Et puis, il y a un enveloppement sécurisé dans un sac mortuaire. Mais la tombe est faite avec dignité et la prière mortuaire, si les parents souhaitent, ça se fait, mais en respectant les distances réglementaires. Et après l'inhumation, nous prenons toutes les précautions d'usage, de désinfection des lieux, du véhicule qui a servi à transporter le corps, et ensuite on fait la fatia. Je n'ai pas encore eu la chance de participer à un enterrement de catholiques ou de protestants, mais pour l'instant, les deux enterrements qu'on a eu à superviser au Mali, c'était vraiment dans des conditions décentes en respectant les préceptes de la religion musulmane.
Le docteur Abdoulaye Néné Koulibaly, membre de la Commission nationale de la lutte contre le virus Ebola au Mali. D'autres commentaires d'auditeurs.
Je m'appelle Ba Ismaël, je vous appelle depuis Guinée-Conakry. Par rapport à la question posée, je voudrais dire tout simplement qu'Ebola a fait peur aux Guinéens ou aux Africains ou disons à ceux qui sont victimes de telle sorte que de nos jours, nous transgressons un peu les lois religieuses ou si vous voulez, transgressons la constitution ou bien la loi islamique, le Coran, parce que une personne décédée doit forcément être, n'est-ce pas, lavé d'abord, faire ce qu'on appelle le rite. Une personne décédée doit forcément être lavée d'abord, prier convenablement comme le prescrit le Coran ou bien comme l'a prescrit le prophète, que le salut soit sur lui. Donc je ne vois pas en quoi Ebola peut faire, Ebola peut freiner cela. S'il y a d'autres moyens, s'il y a d'autres méthodes, d'autres stratégies à éviter cela, surtout qu'un dignitaire religieux ne soit pas lavé, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Nous devons à tout prix chercher des priorités, chercher des stratégies, des méthodes de telle sorte que lorsqu'une personne, surtout dignitaire, une personne croyante, décède d'Ebola, que cette personne-là soit lavée convenablement et que cette personne reçoive la bénédiction et reçoive les louanges de nous qui sommes vivants parce qu'ils étaient comme nous et nous aussi nous serons comme eux.
Et je m'appelle Mohamedou Dao, je viens de Sanaoroba, à 30 km de Bamako, comme ça. Comme les religieux viennent de dire, nous sommes croyants, quoi. C'est ce que je vous ai dit, c'est toujours comme ça, nous sommes croyants, nous croyons à nos religieux. Ce qu'ils vont nous dire, nous sommes obligés de leur suivre en tant que croyants, quand même. Moi, je pense que c'est la meilleure façon.
Bien, merci à ces auditeurs pour leurs commentaires. Quant aux mesures de sensibilisation, voici ce que le pasteur Camara nous avait dit à ce sujet.
Le culte chrétien englobe les salutations et parfois même des baisers, mais quand nous avons appris les nouvelles de cette maladie à virus Ebola, nous avons sensibilisé nos églises à d'abord limiter les salutations, le fait de se donner les mains, premièrement. Deuxièmement, avoir des bouteilles de gel à toutes les portes d'entrée de nos églises pour que, en passant par ces portes, vous ayez du gel sur les mains bien mouillées, parce que d'une manière ou d'une autre, il y a des gens qui vont se tromper et qui vont essayer de saluer leurs camarades, parce que très souvent on se voit une à deux fois par semaine. Mais ces mesures sont prises et nous continuons à sensibiliser nos communautés dans ce sens. Ils doivent apprendre à ne pas se donner la main, se saluer en disant ça va, et même en plus de cela, il faut laver les mains au savon aux différentes portes des églises locales, ou bien mettre du gel à toutes les portes de l'église.
Le révérend pasteur Seriba Joseph Paulo Camara du Mali.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Autre réaction d'auditeur.
Je me nomme Alphonse ici depuis le Mayo. Par rapport au virus Ebola, c'est quelque chose que jusqu'à présent la population malienne, il y a certaines personnes qui ne croient pas. Donc je crois que ça doit être une réalité et que la population doit croire au virus Ebola. Ce que j'ai à dire, soyons toujours vigilants. Ne soyez pas dire que le virus Ebola n'existe pas, c'est bel et bien. En cas de contamination, vraiment, on doit laisser le corps des victimes aux spécialistes, c'est-à-dire que c'est eux qui doivent faire l'enterrement. Si la femme veut prier, c'est là-dessus. Donc, on fait donner le corps aux musulmans ou bien que ce soit chrétien, prier, c'est là-dessus. Mais l'enterrement, tous les autres, ça doit être fait par les spécialistes. Donc, c'est ce que j'ai dit concernant le virus Ebola. Et donc, je demande aux c'est-à-dire que les autorités d'être très vigilants, parce qu'on dit que dans les médias, que toutes les mesures sont prises, et alors que tu parles dans certaines choses comme il n'y a même pas les temps, on ne vérifie même pas les températures, ni fait le lavage de ma vente, alors que dans certaines choses comme ça a été bel et bien respecté là-bas. Même hier, j'étais à Dorobougou, donc je voyais que les mesures ont été bel et bien prises là-bas, au centre de santé de Dorobougou à Dasco. Parce qu'arrivé là-bas, avant de rentrer, tu dois laver les mains, on prend la température avant de partir, que ce soit la maman, le père, l'homme ou la femme. Vraiment, donc, je crois que je vois les agents de santé travailler, il n'y avait même pas de gants pour protéger leurs mains. Donc, vous voyez comment ça, ni les bavettes. Donc, alors qu'on disait que toutes les mains sont déprises. Donc, franchement, parler, parce que c'est. Et voilà, au Mali, ça a commencé dans la capitale. C'est ça le grand problème. C'est pas au nord, ni à Kay, ni à Tombouctou, ni à Gao, ni à Kinshasa. Ça a été bel et bien commencé à Bamako, en ville ici même. Donc c'est ça le grand souci de la population malienne.
Je m'appelle Sassa Nono. Je suis à Bamako, la capitale malienne. Par rapport à Ebola, ce que je peux dire, quand vraiment une personne est morte par Ebola, donc on ne donne pas le corps à tout le monde, on ne doit pas laisser le corps à la porte de tout le monde, quoi. On doit donner le corps aux spécialistes d'Ebola pour l'enterrement. Et l'enterrement aussi doit être sécurisé, parce que pour éviter la propagation, quoi. Parce que nous, moi, je suis à Bamako, vous voyez que vraiment Bamako vient de signaler son cas. Le président Yves du Mali, il vient de signaler son cas. Donc, ce n'est pas le même cas que le cas qui est en Guinée, parce que la Guinée, et si quelqu'un est mort d'Ebola, on amène le corps, ou même si pas Ebola, mais si quelqu'un est mort, on amène le corps. Dans la famille, tout le monde va toucher le corps, les parents pleurent et puis continuent à se salir lors des funérailles, donc se salir. Bon, Ebola est venu maintenant, vous voyez maintenant que la contamination, la propagation, elle est accélérée. Donc, bon, ce n'est pas le cas au Mali. Donc, c'est ce qui fait que la Guinée a enregistré beaucoup de déserts et puis de cas aussi. Donc, à Bamako ici, donc, nous avons essayé Bon, le ministre de la Santé et puis le représentant de l'Organisation mondiale pour la santé aussi, ils ont mis en place une équipe de sensibilisation. Et puis même hier, ils ont publié des photos sont affichées partout. Donc c'est juste pour conseiller la population que vraiment, si vous voyez que quelqu'un est en train de saigner, donc vous voyez que quelqu'un est en train de vomir, ou bien il se sent pas normalement, d'éviter de lui toucher et puis appeler un service directement. Donc le service est venu maintenant, apporter l'intéressé maintenant pour faire le test, connaître de quoi il souffre. Donc ça, ça évite aussi la provocation de Ebola et puis ça peut aussi nous aider à quitter dans cette maladie, quoi, parce que vraiment, ça c'est trop, quoi.
Baya Lango, je suis Socrate, je suis à Lubumbashi, en RDC, RD Congo. Je suis également chrétien, pentecôtiste. Ce que je voulais dire, moi je pense que selon ce que vous aviez dit, selon la question, la maladie Ebola, c'est le cadavre d'Ebola, je pense que laisser à la portée de la famille du défunt, je pense que ça serait un peu un danger pour cette famille-là, parce que vous savez, la famille, la maladie Ebola, c'est une maladie qui est contagieuse, même le contact seulement de l'air, si une fois vous respirez cet air-là du cadavre qui vient de mourir, vous pouvez aussi attraper la maladie. Alors, laisser le cadavre aux mains de la famille, je pense que ça serait un danger pour cette famille-là. Je suggérerais que si possible, malgré le droit de l'homme, malgré tous ces gens-là qui parlent des droits de l'homme et des protections des humains, protection je ne sais pas de quoi, je voudrais qu'avec Ebola, on ne peut pas s'amuser. Parce que si quelqu'un est mort d'Ebola, celui-là, on n'a plus besoin de lui. Celui-là doit être d'abord, une fois vous êtes atteint d'Ebola, vous serez directement écarté de la famille. Même la famille elle-même va vous quitter. Donc vous serez libre, vous serez isolé. Donc vous serez là seulement avec les spécialistes qui sont chargés pour vous prendre en charge.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le dialogue des religions sur la voie de l'Amérique, aujourd'hui encore, la lutte contre Ebola et l'inhumation non sécurisée des victimes. La dernière fois, un auditeur s'était demandé pourquoi l'Afrique encore ? Comme si une autre malédiction s'était abattue sur un continent déjà fort éprouvé. Voici ce qu'avaient répondu nos invités. D'abord, le pasteur Camara, pasteur Soriba, Joseph Paolo Camara.
Je dirais qu'il n'y a pas de frontières, de barrières pour ce virus Ebola. Mais ce que je peux dire, très souvent dans les pays développés, ils ont les moyens de contenir la propagation du virus très rapidement qu'en Afrique. Par contre, quand ça gagne un pays africain ou bien une ville africaine, à cause des conditions d'hygiène précoces et souvent avec des tabous, tout cela favorise la propagation du virus dans ces pays africains. Sinon, je dirais qu'il n'y a pas de frontières pour ce virus. Ça peut aller partout, ça peut attraper n'importe quelle personne, mais la manière de contenir le virus, la propagation, je crois que c'est ça qui fait la différence d'un pays à un autre. J'ai parlé de tabous, parfois d'incroyances. Il y en a qui pensent toujours que c'est de la politique, parce qu'on a toujours fait de la politique à tous les domaines de la vie, et on pense que là encore, il y a de la politique. À cause de ces facteurs-là, je crois que ça joue beaucoup sur les pays africains plutôt que sur les pays développés.
Le révérend pasteur Soriba Joseph Paolo Camara, toujours sur la même question, pourquoi l'Afrique encore ? Eh bien, le docteur Koulibaly.
Vraiment, il n'y a pas de connotation politique et que la maladie n'épargne personne. Vous avez vu des cas qui ont été vus jusqu'au Texas. Ça veut dire que vraiment, ce n'est pas une maladie dirigée contre l'Afrique. Mais peut-être que le réservoir du virus se trouve en Afrique principalement. Mais ce n'est pas uniquement l'Afrique, il y a aussi pour l'Asie.
mais la virulence du germe en Afrique n'est pas la même chose que pour l'Asie. Donc il faudrait qu'on comprenne ça, mais qu'on traite la chose avec intelligence, sans passion, et qu'on se dise que vraiment c'est quelque chose qui vient déranger un peu nos pratiques sociales. Et donner la main, c'est plutôt courant en Afrique. En Europe, vous pouvez passer toute une journée sans dire bonjour à quelqu'un, ça ne dérange personne. Mais en Afrique, quand vous passez devant quelqu'un, vous ne lui dites pas bonjour et vous ne serrez pas par la main, et elle peut être choquée. Mais cette maladie vient bouleverser nos pratiques et nos croyances pour vraiment nous amener à de meilleurs comportements. Ne pas se donner la main, que ça soit mal vu, que ça ne soit pas mal interprété et que ça ne soit pas vu autrement. Sinon, la maladie, vraiment, elle est réelle. Et le foyer que nous avons en Afrique actuellement, je pense qu'avec les différents efforts qui sont mis bout à bout, peut s'éteindre rapidement. Mais l'Europe ni les États-Unis ne sont épargnés. Hein. Vous avez vu des cas passer par là. C'est pourquoi il y a une forte mobilisation sur la question. Et c'est pourquoi même l'OMS a décrété que c'est une urgence mondiale par rapport à cette question-là. Donc ce n'est pas un problème qui concerne que l'Afrique, c'est le monde même entier qui est concerné.
Le docteur Abdoulaye Néné Koulibaly, membre de la Commission nationale de la lutte contre le virus Ebola au Mali.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Alors nous avons en ligne de Kinshasa Alphonse Mbouaki et de Conakry Djibril Diallo. Alors, puisque le foyer est en Guinée, Djibril, vous avez l'antenne.
Alors, bonsoir à tous les auditeurs, la VA aussi. Bonsoir aussi à tous ceux qui sont aussi autour de la table.
Allez-y, Djibril, vous avez un commentaire?
J'ai juste un commentaire aussi. J'ai des questions aussi, si vous me permettez.
Les invités ne sont pas là aujourd'hui. Alors donc, si vous avez un commentaire à faire sur le sujet de l'inhumation non sécurisée des victimes d'Ebola, allez-y tout de suite.
Voilà ce que j'aimerais dire sur mes commentaires. Concernant ceux qui sont décédés d'Ebola, concernant leurs inhumations, normalement, le gouvernement doit prendre des sécurités concernant celle de la famille et puis la personne est décédée. Aller consulter la famille en question et voir s'il n'y a pas une contamination.
Très bien.
La seule chose encore, bien sûr que l'OMS n'a pas fait en question, devrait avoir des gens aussi et faire des vidéos et publier cette maladie.
OK, très bien. Merci beaucoup, Djibril. Alors, Alphonse Mouaki, qu'est-ce que vous avez ajouté à ce débat? Alphonse?
Il faut qu'on sensibilise les Africains que l'importance de l'homme, c'est quand il est vivant. Quand l'homme meurt, c'est un cadavre. Le corps est inerte. Donc, on ne le lave pas, ça ne donne rien. Donc, quand l'homme meurt, Dieu enlève son esprit et ce qui est resté, c'est inutile. Donc, le rite là d'animation qu'on observe en Afrique, ça n'a pas d'importance. Quand on le lève de ce corps-là, il est là la personne, il est déjà parti. Donc, c'est pour les sons de prière, quand les morts au sacrifice, les morts atteints d'Ebola, au sacrifice, de les enterrer dans des normes et dans des conditions sécurisées. Donc, ça n'a pas d'importance le corps-là. Donc, nous devons, nous, Africains, prendre conscience de cela. Il faut qu'on sensibilise les Africains sur les morts. Bien que le corps doit être respecté, on peut même brûler ça.
Merci Alphonse. Oui. Et je crois que les chefs religieux que nous avons reçus dans ce programme l'ont dit clairement. Il n'y a pas contradiction entre la science et la religion dans ce domaine. Quand il y a crise de cette nature, eh bien naturellement, il faut écouter les spécialistes et, le corps médical. Voilà, c'est tout pour cette édition du Dialogue des religions. Idrissa Sedoudia pour La Voix de l'Amérique et de l'autre côté de la vitre, nos remerciements à Georges Léonard Sagnon.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion.